plusieurs faits. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Mandela Kidza avec vous au micro. Vous suivez VOA Afrique, la santé du pape, le cheminement vers la canonisation, le jubilé, c'est notre sujet de ce soir. Dans un contexte où la santé du pape François inquiète le monde entier, l'Église vit un moment de prière intense et de réflexion, alors que le pape, 88 ans, lutte contre une pneumonie sévère. Il continue de porter des décisions importantes, comme la signature de décrets de canonisation. En parallèle, l'année sainte de jubilé, vue comme un moment clé de conversion et de réconciliation pour les catholiques, entre la canonisation de nouveaux saints, les spéculations sur une éventuelle démission du pape et les prières incessantes pour sa guérison. Nous nous interrogeons sur l'avenir de l'Église et de son chef spirituel. Ce soir, nous discutons donc avec un spécialiste pour comprendre ce moment unique dans l'histoire de l'Église et la place de la santé du pape dans ce contexte. Encore une fois, bienvenue. Nous sommes en ligne avec le père Grégor Pridjotko, originaire du Kazakhstan. Il est docteur en droit canonique de l'université Paris-Sud-Saclay, rattaché au laboratoire droit et société religieuse. Bonsoir mon père.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
En tant que prêtre, quel est l'impact spirituel de la santé du pape sur la communauté catholique ?
Bien sûr, la santé dégradante de pape François préoccupe les catholiques, surtout que nous sommes dans l'année jubilaire où il y a plusieurs activités qui sont prévues, notamment 30 millions de pèlerins sont attendus à Rome et les personnes qui viennent à Rome aimeraient voir et entendre le successeur de Pierre. Voilà donc actuellement cette préoccupation occupe les communautés et la prière intense pour le pape est prononcé pratiquement dans les églises. Les évêques appellent à cette prière pour que le Seigneur puisse donner la vigueur, redonner la vigueur à notre pape, même si à cet âge-là, il faut être aussi lucide, cela peut devenir très compliqué.
Que symbolise cette période de prière intense pour la guérison du pape, notamment dans les lieux comme Buenos Aires en Argentine ou Rome en Italie?
Pour Buenos Aires, pour les fidèles de cette ville où le pape François était jadis cardinal-archevêque, donc les personnes le connaissent, par conséquent cela représente une relation personnelle quelquefois, et donc ce pape est cher à leur cœur. C'est pour cela que les fidèles sont très sensibles à sa santé, très sensibles aussi aux appels à la prière pour le pape. Et à Rome, étant évêque de Rome, le pape François, bien évidemment, est une figure essentiel pour les Romains en premier lieu et pour les catholiques du monde entier. Et donc Rome, en tant que le siège de successeur de Pierre, est le pôle de cette prière, deuxième pôle qui est important, qui unit tous les catholiques du monde.
Quels enseignements faut-il tirer des moments de crise dans l'Église comme celui-ci et comment cela renforce-t-il la foi des croyants?
Je crois que l'Église, aussi au point de vue de droit canonique, a déjà prévu tous les mécanismes nécessaires dans des situations pareilles, quand le pape subit des graves problèmes de santé, quand l'avenir est un petit peu incertain. Voilà, donc de ce point de vue, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. En quoi cela renforce la foi des croyants que le Seigneur est toujours là, que c'est le Seigneur qui est le chef de l'Église et le pape et son représentant, bien évidemment, en tant que signe de l'unité de l'Église du Christ. Donc, le Seigneur qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, la fin des temps, va accomplir ce qu'il a promis. Donc, il y a cette confiance qui fait grandir la foi, que même si, admettons, il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe avec le souverain pontife, que l'Église n'est pas abandonnée, elle n'est pas comme entrepôt sans pasteur, parce que le Christ est là.
Vous avez parlé du jubilé. Le jubilé est un moment de conversion et de pénitence. Comment l'Église prépare-t-elle les fidèles à cet événement, tout en étant marquée par la santé de son pape ?
Dans la pratique, donc, parce que notamment dans notre diocèse de Pontoise, il y a plusieurs initiatives, telles que par exemple le pèlerinage à Rome qui doit avoir lieu au mois de, d'octobre. Nous préparons la visite, le voyage de 850 pèlerins. Et même si la santé du pape reste préoccupante, nous continuons préparer toutes les activités liées à cette grande année jubilaire, année de grâce, d'une manière normale. Donc nous continuons nos préparations, nous continuons la mise en œuvre de toutes les activités prévues pour cette année, indépendamment de nos grandes préoccupations pour la santé du souverain pontife. Donc, quand même, le jubilé continue à se mettre en œuvre.
En tant que responsable spirituel, comment percevez-vous les spéculations concernant une éventuelle démission du pape François ?
C'est-à-dire qu'il est vrai que dans l'histoire, il n'y avait pas beaucoup de papes qui ont renoncé. Renonciation, c'est le terme plus exact. Qui concerne donc le fait de quand le pontife romain renonce à sa charge. Donc en ce cas-là, bien sûr, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a plusieurs questions qui se posent. Et mais pour l'instant, rien n'est fait. Donc on va attendre. Le consistoire que le pape a annoncé pour savoir quelle perspective attend l'Église. Il est vrai qu'à part le pape pontien qui a renoncé à sa charge en 235 puisqu'il était emprisonné et mis très loin dans les mines pour subir son exil, à part le pape Célestin V qui donc, a renoncé à sa charge en 1294 et donc Benoît XVI, cette renonciation récente. Donc il n'y a eu pas beaucoup de papes dans l'histoire qui ont renoncé à charge de successeur de Pierre. Je me souviens très bien quand la santé du pape de Saint Jean-Paul II était déjà très dégradée et éventuellement il y a eu les mêmes spéculations concernant sa renonciation au siège apostolique, mais lui, il disait, mais un père, s'il est malade, il ne peut pas renoncer à être père de sa famille. Donc Jean-Paul II, par exemple, a choisi cette option, il est resté jusqu'au bout. Mais on peut envisager tout cas de figure, bien évidemment.
Et le pape avait déjà évoqué cette question dans son livre autobiographique.
Oui, exactement. Le pape a évoqué cette question en disant que Benoît XVI, le pape François, en disant que Benoît XVI a ouvert une sorte de porte pour pouvoir faire de la renonciation d'un souverain pontife qui ne peut plus gouverner pour les raisons de santé, par exemple. Qui s'aggrave ou pour certaines raisons, donc que la renonciation de ce souverain pontife pourrait devenir une institution, pourrait être institutionnalisée. Il est vrai que autrefois les évêques restaient sur place, donc évêques gouvernaient jusqu'à leur mort, sauf quelques exceptions quand ils étaient déposés ou autre chose pour les problèmes disciplinaires. Donc actuellement, les évêques, tous les évêques du monde, donc, sont obligés de déposer leur démission à l'âge de 75 ans, sauf l'évêque de Rome, sauf le souverain pontife, parce qu'il représente cette unité de l'Église, c'est une charge tout à fait particulière. Il n'est pas nommé par quelqu'un, mais il est élu sous l'action de l'Esprit-Saint. Donc c'est d'un ordre tout à fait spécial. Par conséquent, les rénonciations des pontifes n'étant pas très souventes, je ne sais pas quelle option va prendre le pape François concernant sa éventuelle rénonciation, ou peut-être pas. Donc, pour l'instant, jusqu'à cette réunion des cardinaux qui devra avoir lieu prochainement, nous ne pouvons pas trop envisager une hypothèse certaine sur, qui pencherait vers la rénonciation du pape.
Vous suivez le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous. Nous parlons de l'état de santé du pape François. Nous sommes en ligne avec le père Grégor Prichotko, qui est docteur en droit canonique de l'université Paris Sud-Saclay, rattaché au laboratoire droit et société et religieuse. Dans quelques instants, nous allons aborder la seconde partie de cette édition qui va être focalisée sur justement les questions de droit canonique. Restez avec nous, nous observons juste une petite pause. C'est toujours le dialogue des religions que vous suivez sur VOA Afrique. Père Grégor, quelles sont les implications d'un décret de canonisation signé par un pape hospitalisé et quel message cela envoie-t-il?
Le pape François disait que l'Église du Christ est gouvernée non pas par les pieds mais par la tête, donc il a toutes ses capacités intellectuelles. Par conséquent, quand un décret de canonisation est signé, même si ça passe à l'hôpital, tous les actes de son siège sont parfaitement valable parce que il continue à travailler quand il le peut physiquement, bien évidemment. Donc il n'est pas en congé, il n'est pas en vacances, si j'ose dire, mais même en cette période de convalescence, cette période qui peut être compliquée, et les décisions importantes pour l'Église vont avoir lieu, et donc cette future canonisation des deux bienheureux, donc de José Hernández Cisneros, donc ce vénézuélien, ce docteur médecin vénézuélien, et de bienheureux Bartolo Longo, fondateur d'un sanctuaire marial en Italie, sont des messages très importants. Ça veut dire que le souverain pontife, il continue sa mission, même dans ces conditions difficiles. Il pense à l'Église, il pense à ses fidèles et il pense sûrement à l'année jubilaire qui doit être année de grâce pour tous les chrétiens catholiques.
Le Vatican a annoncé que le pape avait reçu la veille de la visite de son secrétaire d'État, le cardinal italien Pietro Parolin, et de Monseigneur Edgar Peña Parra, respectivement numéro 2 et numéro 3 du Saint-Siège. Le pape a donc autorisé la canonisation de deux laïcs du Venezuela et d'Italie et convoqué une consistoire assemblée de cardinaux. La date n'a pas été précisée. Sur quoi se penchent les cardinaux dans des moments comme celui-ci?
Les cardinaux qui sont les collaborateurs les plus proches du pape Donc, ils mobilisent leurs forces pour pouvoir servir à l'unité de l'Église et aider le souverain pontife à continuer sa mission. Il est vrai que on a remarqué que le cardinal qui est préfet du dicastère pour les causes des saints, le cardinal Marcello Semeraro, n'était pas présent à cette réunion. Donc peut-être il y a d'autres points qui vont être rajoutés. On parle aussi de la béatification d'autres laïcs. Donc, de la reconnaissance des trois vénérables. Donc, par conséquent, le travail, sans doute, n'est pas encore fini. Et bien souvent, c'est le consistoire, justement, qui joue le rôle décisif pour apporter son éclairage au souverain pontife quand le pape signe, notamment, les décrets de canonisation des saints pour l'Église catholique.
Est-ce que c'est aussi pour définir, par exemple, des règles concernant l'exercice des fonctions du Saint-Siège dans un tel contexte de santé fragile ?
C'est-à-dire que ces règles sont déjà définies par le droit canonique. Si vraiment le souverain pontife ne peut pas exercer ses capacités physiquement, donc, par conséquent, on peut éventuellement procéder à la déclaration de siège vacant si on sait que l'intention de pontife romain est de renoncer à sa charge, parce qu'il est vrai que, par exemple, pour Benoît XVI, physiquement, c'était très compliqué de continuer sa mission, ce qu'il a évoqué dans son discours de renonciation. On va attendre, je crois que ce consistoire peut être justement, peut donner plusieurs réponses à nos questions, notamment à la possibilité de renonciation pour le pape François, puisqu'il a évoqué déjà précédemment, soit les nouveaux vénérables et bienheureux qui vont être évoqués lors de ce rassemblement des cardinaux. Dans le cas où le pape renonce, l'Église va vivre une période de siège vacant. Donc elle va être gouvernée par le collège des cardinaux, administrée par le cardinal Camerlin, qui va diriger les affaires courantes avec l'aide de trois cardinaux assistants. Donc c'est le collège des cardinaux qui va gérer les affaires courantes jusqu'à le nouveau conclave où sera élu le prochain souverain pontife.
Quelles sont les attentes des cardinaux et des fidèles par rapport à un éventuel consistoire convoqué par un pape malade ?
Exactement, c'est une grande surprise. Déjà, nous savons que sûrement, nous aurons deux nouveaux saints dont le nom ont été évoqués, peut-être trois vénérables. Donc c'est une étape de canonisation et la béatification de deux militaires. Il y a aussi les modalités, en fonction de ce que la santé de pape, depuis hier, plutôt se stabilise. Peut-être les cardinaux discuteront également sur le mode de la gestion de toutes les activités liées à jubilé, parce que nous avons remarqué que le dernier temps, le souverain pontife avait du mal à terminer, par exemple, ses discours, mais même si c'est lui qui les rédigeait, il commençait physiquement et il était malade et ne pouvait plus le faire. Peut-être certaines activités vont être gérées par les personnes qui représenteront le pape. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir de ce consistoire que le pape a annoncé.
Vous avez dit que le droit canonique encadre la gestion de crises comme celle-ci. Est-ce que cela influence la direction spirituelle de l'Église ?
Non, cela n'influence aucunement la direction spirituelle de l'Église. Il y a la prière pour l'élection d'un nouveau souverain pontife que tous les prêtres, c'est-à-dire il y a un formulaire de la messe, que tous les prêtres sont invités à célébrer pour l'élection de ce grand pontife. Et tous les fidèles sont priés de renforcer leur prière également pour toute l'Église, afin que le Seigneur lui-même puisse, lors du conclave, désigner le nouveau successeur de Pierre. Concernant le droit canonique, effectivement, l'Église sera gérée suivant la rénonciation en tant que telle est prévue au canon 332, paragraphe 2 du Code de droit canonique. Je cite, « S'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la rénonciation soit faite librement, qu'il soit dûment manifesté, mais non pas qu'il soit accepté par qui que ce soit. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acceptation de rémission, c'est juste une rénonciation déclarative. Et en ce moment-là, on déclare le cardinal Kamerlingh, celui qui va gérer les affaires courantes, il déclare le siège vacant. Et ensuite, il fait toutes les procédures nécessaires pour réunir les cardinaux à Rome pour un conclave où le prochain souverain pontife sera élu. Actuellement, il y a 137 cardinaux qui sont donc les cardinaux électeurs qui participeraient éventuellement à un conclave si, dans l'hypothèse où le pape allait renoncer à sa charge.
Quel rôle joue l'Église dans la gestion de la santé du pape et comment les autres instances de l'Église interviennent-elles pour soutenir ce processus en dehors du Vatican?
Oui. En dehors du Vatican, dans la gestion de l'Église, rien ne change. Sauf peut-être quand il y a les nominations épiscopales à prévoir, mais aucun évêque ne pourra être nommé avant que le nouveau pape arrive. C'est-à-dire que l'Église continue sa vie, les évêques dans leur diocèse continuent leur ministère, le nom de ce grand pontife n'est plus évoqué dans les prières universelles lors du siège vacant, mais encore une fois, tout le monde est invité à prier pour l'élection du nouveau pape, mais la vie de l'Église continue, parce que les évêques, chacun dans leur diocèse, sont des successeurs des apôtres, et donc ils continuent à ordonner les prêtres, ils continuent à célébrer les sacrements, ils continuent à promouvoir la mission de l'Église, donc la vie de l'Église ne s'arrête pas en ces moments de crise, quand il y a la situation du siège vacant. Tout est vraiment bien organisé dans ce sens-là. En revanche, actuellement, nous prions pour la santé de ce grand pontife et nous abandonnons à la volonté de Dieu parce que le Seigneur, encore une fois, nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions, en ce moment crucial de l'histoire de l'Église catholique, alors que le pape François traverse une épreuve de santé majeure. Il est essentiel de soutenir sa guérison par la prière et de réfléchir à l'avenir de l'Église, que cette période de jubilé soit un temps de foi à renouveler et de réconciliation pour tous. Nous souhaitons au pape un prompt rétablissement en espérant qu'il continue à guider les fidèles avec sagesse et courage. Nous disons donc merci à notre invité, le père Grégor Prijotko, docteur en droit canonique de l'Université Paris-Sud-Saclay et rattaché au laboratoire droit et société religieuse. Mon père, merci beaucoup pour votre contribution et des différentes clarifications à nos questions concernant justement la gestion de cette période de crise au sein de l'Église catholique.
Merci beaucoup, Eric. Merci.
Au revoir. Merci également à vous tous, chers auditeurs, qui avez écouté ce dialogue des religions. Eric Manelakiza était avec vous au micro sur VOA Afrique. Je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine. Au revoir.